Chapitre 3. Mira n'eut pas le lendemain à feindre une indisposition pour éviter de paraître au déjeuner. Toute la nuit, elle eut la fièvre et il lui en restait au matin un violent mal de tête qui augmenta encore quand elle reçut l'enveloppe contenant son mouchoir tombé dans le cabinet du prince. En un nouvel accès de rage et de désespoir, elle le déchira complètement. Puis, tournant vers sa mère un visage convulsé, des yeux sombres et mauvais, elle déclara « Cette étrangère, je veux la connaître, et alors je me vengerai sur elle des souffrances, de la trousse humiliation qu'il m'inflige. » « Pas de sottise, Mira. Déjà, celle d'hier soir est suffisante. » « Je ne la regrette pas. Il a vu ainsi, comme je l'aimais, jusqu'à la folie. » Ismène leva les épaules. Tu l'as irritée, voilà tout. Être aimée jusqu'à la folie même, ce n'est pas une nouveauté pour lui. Mais par contre, l'audace dont tu as fait preuve en pénétrant ainsi dans son appartement n'a pu que lui déplaire au plus haut point, car ceci est autre chose encore qu'un manquement à l'étiquette, ce qu'il ne tolère déjà pas facilement. Mira eut un geste de colère. « Laisse-moi, ne me parle plus de lui, je vais tâcher de ne plus y penser. » Mais quand sa mère revint, quelque temps après le déjeuner, elle l'interrogea fiévreusement. « Quelle figure t'a faite le prince? A-t-il dit quelque chose quand tu as pris congé ?»« Pas un mot, simplement un salut bref, à peine un regard. Par exemple, il s'est montré aimable pour André, à qui, de nouveau, il a parlé de montrer ses éditions anciennes à Pétersbourg. » Mira dit sourdement « Qu'a-t-il donc contre nous ? Que signifie ce parti pris de nous mettre, pour ainsi dire, de côté ?» On n'y peut trouver qu'une explication, c'est qu'il a regretté de nous avoir invités toutes deux. Impossible de nous le faire plus nettement sentir. Au reste, nul n'ignore qu'il est d'humeur très capricieuse, en homme sachant bien ce que vaut sa faveur et se plaisant à en jouer, très cruellement parfois. Mira secoua la tête. En son fort intérieur, elle restait persuadée qu'il y avait autre chose. Dans la façon d'être du prince à son égard, pendant cette semaine, il lui semblait discerner une sorte d'aversion mêlée du plus intense mépris. Mais pourquoi ces sentiments? Que s'était-il passé entre Uxage et Vélaïna? Sans avoir résolu ce problème et sans revoir le prince, Mira quitta la magnifique demeure vers la fin de cet après-midi-là avec ses parents. Quand Vladimir, le soir, s'assit à table, il éprouva une très vive satisfaction à ne plus voir ces deux inquiétantes figures de femmes. Et la princesse Alexandrine, le lendemain, lui exprima son contentement de ce départ en termes discrets mais sans crainte de le contrarier, car il avait suffisamment montré que la comtesse et sa séduisante fille se trouvaient en complète disgrâce. Il sourit avec ironie en répliquant « Oui, Mira Nadopoulou avait déjà cessé de me plaire. Sa mère et elle ne seront plus reçues ici, vous pouvez en être assurés. » « J'entends cela avec plaisir, mon cher Volodia. Je puis bien te l'avouer maintenant, elles ne me sont aucunement sympathiques. On ne sait qui elle est, au juste, cette comtesse Semenkov. Elle a l'air d'une intrigante de premier ordre. » Je crois que ce pauvre Semenkov doit amèrement regretter de s'être laissé prendre à de tels filets. Elle a une fort mauvaise réputation et sa fille marche sur ses traces. On m'a dit aussi qu'elle avait à peu près complètement ruiné son mari. Oui, je le sais. Que voulez-vous? Tant pis pour les hommes qui se laissent ainsi mener. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. La princesse enveloppa d'un regard de satisfaction orgueilleuse son petit-fils assis près d'elle. « Tous ne sont pas comme toi, Volodia. Il est certain que tu te laisserais difficilement dominer, même si tu aimais. »« Oh, très certain !» Mais en répondant ainsi, Vladimir évoquait l'image de sa chère enchanteresse qui, seule, avait su émouvoir son cœur sceptique et faire céder sa volonté. Il avait su toujours se dégager des plus puissantes séductions. Mais celle-là, il ne cherchait pas à l'écarter, sans doute parce qu'il sentait qu'elle ne serait jamais que discrète et bienfaisante. Une huitaine de jours plus tard, Ivan Séminitch, le secrétaire de confiance, remit deux lettres au prince qui rentrait d'une partie de chasse. Toutes deux portaient une suscription due à la main malhabile d'Ofnik, gênée par les rhumatismes. Vladimir, une fois seul dans son cabinet, ouvrit l'une des enveloppes. Elle renfermait une lettre de Lilia, une de ces lettres charmantes où, très délicatement, elle laissait voir son amour confiant, son ardente reconnaissance pour celui qui avait transformé sa vie. « Tu me grondes, chère Volodia, parce que je ne t'ai pas parlé de ma santé dans mes deux dernières lettres. T'imagines-tu donc que je suis malade ? Non, certes, je me sens seulement assez fatiguée, un peu faible, et cette froide humidité d'automne m'est désagréable. » Depuis la mort de ma chère Madame Fabien, je suis quelque peu anémiée. Ce chagrin, le souci de ces revendications, dont je ne voyais pas alors la possibilité, isolée comme je l'étais, tout cela me tourmentait en dépit de mes efforts pour réagir. Je crois aussi que le climat de Sanitza, très favorable quand j'étais enfant, le devenait moins en ces dernières années. C'est d'ailleurs l'opinion du médecin qu'Irina a fait venir l'autre jour. Néanmoins, je crois qu'il exagère en me conseillant de ne pas passer l'hiver ici. Où irais-je, du reste, si je dois me trouver encore à ce moment-là dans la même situation ? Je vais prendre les quelques médicaments qu'il m'a ordonnés afin d'être bien portante quand mon cher fiancé viendra me voir. Oh, que j'attends ce jour avec impatience ! Mon Volodia, je sens que tu m'aimes tant ! Et moi, non, je ne puis te dire comme tu m'es chère. À la pensée de te revoir bientôt, je suis tellement heureuse que toute ma fatigue n'existe plus. Tu parles de me faire envoyer des fourrures, mais c'est inutile, je t'assure. J'ai un vieux manteau en peau de je ne sais quoi, assez laid mais très chaud. Cela suffira, d'autant plus qu'autre chose pourrait attirer les remarques sur moi. Mon père a quitté Velaïna, me dis-tu ? Cela me fait peine de penser qu'il est sans doute malheureux à cause de cette femme. » Ici, Vladimir, dont la physionomie exprimait l'inquiétude, interrompit sa lecture pour ouvrir l'autre enveloppe dans laquelle il trouva une lettre d'Ofnik. « Je prie votre Altesse Sérénissime de m'excuser si je me permets de lui écrire, » disait le vieux garde. « Mais il s'agit de la santé de Lilia Andreïevna. » Elle-même, je le sais, en parle un peu à votre Altesse. Il faut que j'ajoute ce que m'a dit en particulier le médecin. Cette jeune fille, dont la constitution générale est excellente, souffre d'une forte anémie. Comme de ce fait, elle se trouve affaiblie, le dur climat de Sanitza, en automne et en hiver, pourrait présenter des dangers. Voilà d'abord ce que je devais apprendre à votre Altesse. Puis il y a autre chose. Le bruit court dans le pays que votre Altesse, quand elle était à Sanitza, venait chaque jour chez moi pour voir Lilia Andreïevna et qu'elle lui écrit en mettant les lettres à mon adresse. De même, on a remarqué, paraît-il, celle qu'Irina ou moi déposons dans la boîte de la poste à l'adresse du secrétaire de votre Altesse. Tout ceci m'a été appris par un de mes collègues, André Mikhailovitch Zornev, brave garçon qui déteste les cancans et ne parle qu'à bon escient. Il est évident que cette correspondance fréquente, échangée soi-disant entre moi et quelqu'un appartenant à la maison de votre Altesse, doit paraître singulière. Mais si l'employé de la poste n'avait pas commis la faute de bavarder, on n'en aurait évidemment rien su. Bref, on jase sur notre petite comtesse, sur ses rapports avec votre Altesse. Nous ne lui avons rien dit de cela, naturellement. Mais je crois qu'elle s'est aperçue de quelque chose et qu'elle en souffre, la chère petite sainte. » Arrivé à ce point de sa lecture, Vladimir, dont les sourcils se fronçaient violemment, jeta la lettre sur son bureau. Il dit entre ses dents « Ah, ils sauront ce qui leur en coûte, ceux qui ont répandu ces calomnies, et d'abord les indiscrétions de la poste. » Après un court billet à l'adresse d'un haut fonctionnaire des postes, Vladimir écrivit à Ofnik « Tu as bien fait de me prévenir. Enquête pour connaître les coupables. Je vais, de mon côté, chercher les moyens de remédier à cette situation. » Il s'interrompit et demeura songeur. Y remédier ? Comment ? S'il déclarait publiquement ses fiançailles avec Lilia et parlait de mariage morganatique, le seul possible en ce moment, tant qu'elle n'aurait pu reprendre son vrai nom, il attirerait trop vivement l'attention sur elle, celle surtout d'Ismène et de Mira. Il se souvenait d'avoir dit un jour devant elle, à propos du récent mariage d'un grand-duc, que jamais, pour quelque motif que ce fût, il ne consentirait à une union morganatique, ne pouvant admettre que ses enfants ne fussent pas, officiellement, les continuateurs de sa race. « D'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui se mésallient », avait-il ajouté. Or, si, après une telle déclaration, il épousait Lilia, censée être la fille de modeste roturier, Mademoiselle Nadopoulos, esprit subtil et rusé, ne flairerait-elle pas quelque mystère et n'arriverait-elle pas à avoir un soupçon de la vérité ? Il réfléchit longuement à ce sujet les jours suivants sans trouver une solution satisfaisante. Cependant, il ne voulait pas que Lilia, sa chère et délicate Lilia, fût en butte aux suspicions, d'autant plus qu'Ofnik disait qu'elle semblait s'en apercevoir et qu'elle en souffrait. D'autre part, tenter dès maintenant une démarche décisive près du comte Semenkov semblait prématuré. Pendant son court séjour à Velaïna, Vladimir avait eu trop peu de temps pour étudier ce caractère et connaître le degré d'influence qu'exerçait encore sur lui la comtesse. Il ne fallait pas risquer de compromettre, par trop de hâte, le résultat escompté de son intervention près du père de Lilia. Et pourtant, je ne veux pas qu'elle souffre, songeait-il. Je ne la laisserai certainement pas cet hiver à Sanitsa, puisque sa santé demande un autre climat. Avec Irina, elle s'installera dans une contrée plus douce, dans ma villa de Crimée, par exemple, ou dans le midi de la France. Là, j'irai la voir. Oui, c'est ce qu'il y a de préférable. Il écrivit aussitôt dans ce sens à Lilia en disant qu'il parlerait de tout cela et prendrait ensemble les arrangements nécessaires pendant les quelques jours qu'il comptait passer à Sanitsa vers la fin du mois. D'ici là, soigne-toi bien surtout. Ne te fais pas de soucis inutiles, ma Lilia très chère. Tu sais que tu es tout mon amour et que tu te trouves sous ma protection. Si tu éprouves quelque ennui ou quelque déplaisir, dis-le-moi, n'est-ce pas ? Je saurai promptement y mettre un terme, tu peux en être certaine, ma bien-aimée. » À Ofnik, le prince disait plus explicitement « Trouve-moi les coupables et je les châtirai de telle sorte qu'ils ne l'oublieront jamais. » Bien que très maître de ses impressions, Vladimir laissait néanmoins paraître une distraction, une indifférence pour tout ce qui l'entourait, dont s'apercevaient ses hôtes, toujours attentifs à son humeur. L'existence du portrait de femme qui, le premier, avait les honneurs du bureau princier, était maintenant connue de tous par les soins de la comtesse Sangzo. Ces divers symptômes, chez un homme tel que lui, semblaient les signes d'une grande passion. La princesse Alexandrine en jugea ainsi quand, par sa dame d'honneur, elle apprit ce détail ignoré jusqu'alors, car elle n'entrait pas sans motif chez son petit-fils, dont la froide déférence n'encourageait pas des rapports plus intimes. Cette révélation lui parut fort désagréable. Elle souhaitait avec ardeur que Vladimir se décidât enfin à épouser sa cousine, la grande duchesse Anne, jolie, très intelligente et fort amoureuse. Il n'avait pas dit non à ce projet de mariage, mais s'était refusé à en parler sérieusement avant 2 ou 3 ans. Anne aura 22 ans, nous verrons alors, avait-il dit de ce ton décisif qui ne souffrait pas d'insistance. La princesse n'en avait plus soufflé mot. Toutefois, elle gardait grand espoir de voir son projet se réaliser, car elle savait que Vladimir, à défaut d'inclination sentimentale pour la grande duchesse, appréciait sa beauté, son élégance, la vivacité de son intelligence. En outre, elle n'ignorait pas que seul, jusqu'ici, des caprices avaient passé dans l'existence de son petit-fils. Mais cette fois, à en croire les apparences, il s'agissait d'un attachement véritable. Celui-ci n'allait-il pas se mettre à la traverse du mariage souhaité ? Un matin, la princesse rencontra dans le grand vestibule du palais Vladimir qui rentrait d'une promenade à cheval avec quelques-uns de ses hôtes. Elle répondit au salut de ceux-ci et tendit sa main au prince qui s'inclina pour l'effleurer de ses lèvres. Je viens de recevoir une lettre charmante de ta cousine Anne Volodia. Elle demande, de la part de toute sa famille, si tu ne leur feras pas le plaisir d'aller passer quelque temps chez eux le mois prochain. Certainement non. Vous lui répondrez que je regrette de ne pouvoir me rendre à cette invitation, mais que tout mon temps est pris à l'avance. » Contre son habitude, la princesse osa essayer de l'insistance. « Pourtant, mon cher Volodia, 8 jours, par exemple ?»« Impossible. Du reste, je vais quitter Vélaïna dans quelques jours, ayant affaire ailleurs. Vous voudrez bien continuer d'en faire les honneurs à nos hôtes jusqu'au départ de ceux-ci ?»« Quitter Vélaïna ? Mais tu n'y reviendras pas ?»« Il est possible que non. » Sur cette laconique réponse, Vladimir se dirigea vers la galerie conduisant à son appartement, laissant la princesse Alexandrine abasourdie par l'annonce de ce départ, quelle que fût son habitude, des fantasques décisions de son petit-fils. Le prince, qui paraissait préoccupé, gagna son cabinet et sonna aussitôt son secrétaire. Depuis 3 jours, il n'avait pas de lettre de Lilia et commençait à s'en inquiéter. Mais Ivan Seminich apportait 2 missives de Stanitsa, une de Lilia, très courte, un simple billet, et une du vieux garde. Lilia écrivait « Cher, bien cher Volodia, je viens d'avoir un grand chagrin. Ma pauvre bonne Irina est morte subitement d'une congestion avant-hier. À peine a-t-elle eu le temps de dire « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» Aujourd'hui, Nicolas Stepanovitch l'a conduite à sa dernière demeure. Moi, je ne puis pas, étant couchée avec la fièvre. C'est l'émotion, la fatigue. Avec du repos, cela passera vite. Puis je pense que je vais te voir bientôt, mon Volodia, et rien que cette idée me fait tant de bien. Le pauvre Ofnik est abruti par ce coup. Chère excellente Irina, si dévouée. « Pardonne-moi, mon ami, mon fiancé, de t'écrire si peu aujourd'hui, mais je suis tellement fatiguée. Demain, peut-être, je me trouverai plus vaillante. Mieux que jamais, ta Lilia se réfugie dans ton affection. »« Ma pauvre petite, » songea Vladimir, « malade, toute seule, là-bas, il faut que je parte pour aller la retrouver. » Il ouvrit la lettre d'Ofnik. Celui-ci l'informait que Lilia, déjà souffrante auparavant, avait été douloureusement frappée par la mort d'Irina. Elle avait dû s'aliter sans pouvoir même assister aux obsèques de sa fidèle servante. « Le médecin que j'ai appelé, ajoutait le garde, m'a de nouveau déclaré qu'elle se remettrait vite pourvu qu'elle change de climat et soit entourée de soins et d'affection. Ceux-ci, j'ose le dire, ne lui ont pas manqué ici. » Mais notre logis est pauvre, inconfortable, et surtout notre chère petite comtesse, depuis la mort de Madame Fabien, se tourmentait secrètement pour son avenir. Maintenant, sur ce point-là, elle est plus tranquille, s'en remettant entièrement à votre Altesse. Mais il y a encore ce que j'ai dit à votre Altesse dans ma dernière lettre, Lilia Andreïevna a reçu une insulte à ce sujet. Le prince eut un brusque mouvement de colère. « Une insulte à elle, ma Lilia, celui ou celle qu'il a osé le père à chair. Je crois que les auteurs de ces bruits calomnieux pourront être découverts facilement, » continuait Ofnik. Vladimir s'interrompit à nouveau de lire, en songeant avec irritation. « Le vieil imbécile ne me dit pas les noms. Je les devine d'ailleurs. En y réfléchissant, je soupçonne fortement la fille de Strainov et Strainov lui-même, dont la mine fourbe ne m'a jamais dit rien qui vaille. Ils ont dû m'épier quand je me rendais à la maison forestière. Si j'ai deviné juste... » La physionomie du prince, en ce moment, aurait fait trembler d'effroi Dounia et son père s'ils avaient pu apercevoir. Il s'accouda au bureau et songea longuement, les yeux attachés sur le cadre où Lilia souriait. Depuis quelques jours, il était à peu près résolu à un mariage secret en attendant que fût réglée la situation sociale de la jeune comtesse Semenkov. Les lettres qu'il venait de recevoir ne faisaient que hâter sa décision à ce sujet. Certes, il ne se dissimulait pas les inconvénients qui en résulteraient, c'est-à-dire la position fausse qui serait celle de Lilia en cette occurrence. Mais d'autre part, il pourrait la protéger plus efficacement une fois unie à elle ayant le droit de vivre près d'elle. Puis il était absolument impossible, en son état de santé, qu'elle demeurât seule avec le vieil Hofnick dans cette triste et pauvre petite maison de la forêt. Le médecin disait qu'il lui fallait des soins, de l'affection. Où les trouverait-elle mieux que près de celui dont elle était l'unique amour et qui lui ferait connaître une existence si différente? Enfin, une autre raison très puissante pesait sur la décision de Vladimir. Le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » ne s'était pas réalisé pour lui. Lilia, sans cesse présente à sa pensée, lui devenait de plus en plus chère et, toujours accoutumée de réaliser sans délai sa volonté, il se serait difficilement prêté à l'attente peut-être longue que nécessiterait la reconnaissance de la jeune fille comme comtesse Elisabeth Semenkov. Il voulait qu'elle fût à lui dès maintenant. Mais pour cela, des mesures restaient à prendre. Ce fut dans ce but que Vladimir, après avoir écrit à sa fiancée pour lui annoncer sa prochaine arrivée, fit appeler Voline, son intendant-chef. Brièvement, il expliqua à ce serviteur discret et dévoué ce qu'il attendait de lui. « Je vais épouser secrètement une jeune fille de très noble famille que des raisons graves obligent à cacher son nom momentanément. Aussitôt notre mariage béni, je l'emmènerai en France, dans le Midi, où je veux passer incognito les premiers temps de notre union. Tu partiras demain matin pour nous chercher une demeure vers Cannes ou Nice, mais en dehors de ces villes, dans une situation très retirée, de telle sorte que nous nous trouvions à l'abri des curiosités. Je ne te donne pas d'autres instructions à ce sujet, car tu connais mes goûts et je sais que tout sera bien. Je ferai du moins tout mon possible pour contenter votre Altesse. Choisis un personnel domestique parmi les plus discrets. À ces serviteurs qui nous entoureront, tu feras connaître le lien légitime qui nous unira, Lilia Andreïevna et moi. Mais préviens-les que je veux des bouches cousues à ce sujet. Le plus petit bavardage sera châtié de telle sorte que le coupable en gardera le souvenir toute sa vie. Ils savent d'ailleurs déjà comment je punis les langues trop longues, mais tu le leur rappelleras de façon explicite, car il est possible que, de côté ou d'autre, on cherche à les faire parler. Votre Altesse n'a rien à craindre, ils seront prévenus. Maintenant, autre chose, je veux avoir la robe et le voile de mariée de ma mère. Sais-tu où ils se trouvent ? « Probablement à Pétersbourg, votre Altesse. C'est Stepanida Petrovna qui doit connaître. Envoie-la-moi tout à l'heure que je m'informe près d'elle. Et dis-moi donc où en est la vérification des comptes de l'intendant de Stanitsa. Michel Markov, que j'en avais chargé, ne m'a pas encore envoyé son rapport. Mais le temps qu'il jugeait nécessaire à cette tâche est maintenant presque écoulé. Expédie-lui immédiatement un courrier. Il me faut ce rapport dans 2 ou 3 jours. » Là-dessus, le prince congédia son intendant, fort stupéfait de ce qu'il venait d'entendre. Rapidement, Vladimir établit son plan. Il partirait le lendemain pour Pétersbourg, ferait chercher par Jorel, selon les indications données par Stepanida à la femme de charge, la parure nuptiale de la défunte princesse Marie, sa mère, dont il voulait voir Lilia vêtue. Puis il gagnerait Stanitsa, où, dès que sa fiancée serait un peu mieux, il ferait célébrer leur union. Après quoi, ils partiraient tous deux pour la France. Restait la question des témoins. Le secrétaire serait l'un d'eux. L'autre, Vladimir l'avait choisi déjà, c'était le colonel Korff, dont il connaissait l'inviolable discrétion. En regardant le portrait de Lilia, il murmura en souriant « Bientôt, ma jolie biche, tu seras toute à moi et je te ferai heureuse, tu verras. »